Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net, partout sur la planète. Alors ce soir Money Time, saison 5, épisode 26, et pour débriefer de l'actu, toute une bande de chroniqueurs ce soir autour de la table, et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec toi mon Charles.
Et merci à toi et puis très ravi d'être ici ce soir, de découvrir vos visages, ça fait longtemps qu'on est ensemble.
Premier jour sans les masques depuis 18 mois, oui ça fait plaisir, on continue les présentations à la gauche avec toi mon Fab.
Salut à tous, salut à toutes et bonne émission.
Et à côté de moi c'est Jean-Marc.
Salut, salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et j'en profite pour faire un big kiss, un gros coucou à Chris et à tous les bénévoles des Corsaires. Petit hommage à notre invité.
On les embrasse. À côté de toi, en guest, c'est Martin. Comment tu vas bien, mon Martin?
Je vais très bien, merci beaucoup. Merci de votre accueil.
Martin, l'entraîneur des Corsaires, notre équipe de hockey. Et puis, en bout de table, c'est Jérém.
Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et content de vous retrouver.
Alors, notre Réal n'a pas mis son casque, il ne doit pas nous écouter, mais on le salue en régie, c'est Charlie.
Le retour.
Et Charlie, après le sommaire, tu lanceras donc notre première rubrique. Oui, le sommaire, on va commencer avec l'actu des clubs nantais, bien sûr. On parlera de hand, de volley, mais surtout de hockey ce soir. Et puis, dans le reste du programme, eh bien, tous les sports, tout ce qui s'est passé dans ce week-end. Mais pour l'instant, c'est le score en stock. Les résultats des clubs nantais, mon Charlie.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer par parler de handball. Le HBC Nantes jouait à Pierre de Coubertin hier, Jean-Marc, le match tant attendu de la 30e journée de Molly Star League.
Eh bien, on l'a vu, Nantes s'est bien battu, il est revenu plusieurs fois à un but.
Ouais, mais battu de 4 buts à la mi-temps, il s'incline 34-28.
Ouais, comme souvent avec le PSG.
Ils n'arrivent pas à faire sauter le verrou, non, Nantais.
Exactement, exactement. Ils ont eu plusieurs fois l'occasion, malheureusement, ça n'a pas réussi.
Ouais, dans cette journée de championnat, Aix est allé s'imposer à Limoges, 33-27. On rappelle Aix, hein, qui est notre adversaire direct pour les places en Ligue des Champions.
Et du coup, qui revient à égalité au classement, 31 points partout pour les deux équipes. Mais Aix devra aller jouer à Paris et à Nantes.
C'est cela, on les attend de pied ferme à la Charena. On part chez les filles, Jérém. Les Neptunes étaient en déplacement à Celles-sur-Belle.
Voilà, et le déplacement qui s'est mal passé, car du début à la fin du match, elles ont été menées au score, carrément, elles ont été menées 13-5 à la 21e minute, pour finalement finir à la mi-temps à 16-9. Puis finalement revenir en fin de match tout doucement à faire un 28-25, ce qui est pour leur statut et leur position au classement, c'est très très juste de faire ça contre Celles-sur-Belle, surtout avant un match de Coupe de France contre Chambray.
Catastrophique, c'est seulement la troisième victoire de Celles-sur-Belle.
En plus.
Ouais, donc deux points, deux perdus pour nos Nantaises. Alors pour la course à l'Europe, on est toujours dans les points. Il y aura Chambray effectivement en Coupe de France, ça c'est mercredi. Et sur l'agenda, Paris, un candidat direct, voilà, pour les places européennes.
En gros, semaine importante pour les Neptunes cette semaine.
Ah, surtout très importante. Paris est juste devant nous au classement. Nous, on est, comme on le disait, quatrième. Paris est à 45 points, nous, on est à 40. Donc, c'est l'occasion d'essayer de revenir sur les Parisiennes pour obtenir cette troisième place.
Ouais, ça.
Ex aequo en plus avec Besançon.
Avec Besançon aussi.
Besançon qui revient. Ouais.
On sait que les cinq premières places nous donneront un strapontin pour la prochaine Coupe d'Europe. On a appris aujourd'hui que Gordana Mitrovic prolongée.
Oui.
La capitaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, je vais en profiter pour vous donner le calendrier des garçons. Donc pour l'instant, c'est une semaine de Golden League. Et puis après, il y aura la réception de Créteil le 26. Et puis le premier match, le match aller de Coupe d'Europe face à Furze Berlin.
Yeah, on y sera. Allez, un mot de volley, Jean-Marc, et les filles du VBN, les passionnantes.
Alors,
La semaine du volley avec toi.
Les passionnantes, c'était compliqué. Alors, elles recevaient Béziers, c'était mardi soir. On espérait une petite victoire, mais Béziers, c'est un petit peu l'ennemi qui vient toujours foutre le bazar. Et du coup, une défaite 19-25, 19-25, 17-25. On écoute Cyril Hong, il n'était pas très joyeux.
Une semaine chargée. Ah non, même,
ça, c'est pas Cyril Hong.
Là, c'est sûr, le match
coupe, Charlie, je vais te dire, il est plus bas. Voilà, celui-là. Merci.
Et t'as jeté, c'est pas mal. On repart d'une feuille blanche, au moins. Et verrons ce que ça fait de se lever tôt demain matin. Voilà, moi j'ai honte. Si les joueuses, elles n'ont pas honte, moi j'ai honte. Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après, plus je vais parler, plus la colère va monter. Et j'ai décidé de rester tranquille, donc... Voilà, la colère, elles l'auront pour elles, ça c'est sûr. Après, il n'y a rien à analyser. Béziers a fait du Béziers, hein. Là il va, Cugnot, prend les stats après 2-7. Tiens, bizarrement, c'est ce que j'avais un peu dit. Voilà. Alors, il n'y a vraiment pas de surprise, on a arrêté de servir. Après, voilà, elles sont battues sur 5, 6, 7 ballons. Il doit y avoir un point qui doit durer 10, 12 ou 14, mais bon, à 22-10, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais... Voilà, c'est pas de l'énergie dépensée pour rien, parce que... Mais voilà, j'ai pas reconnu mon équipe, et surtout dans l'attitude, et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'arrive à la limite de mon management sur les rotations? Peut-être. Voilà, j'ai tenté ce soir encore autre chose. Voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être aussi, elles se sont mis une pression alors qu'il n'y en a pas, puisque de toute façon, qu'on perde ou qu'on gagne, ça change rien à notre vie aujourd'hui, puisqu'on reste troisième. Voilà. Ça permet à Béziers de gagner, voilà. Mais elles sont sur une bonne dynamique, elles ont bien joué contre Cannes. Voilà, à nous de bosser, à nous de continuer à essayer d'avancer. Voilà, maintenant, il va falloir se retourner la tête pour samedi à Terville, parce qu'il est hors de question qu'on refasse le deuxième match de suite comme ça. Voilà, après...
Et à Terville, je crois que ça s'est pas bien passé, Jean-Marc.
Exactement, puisque c'est aussi une défaite 3-7-0, 25-22, 28-26. 25-20, du coup, Nantes est toujours troisième au classement, mais Terville peut revenir, hein. Il n'y a plus qu'à 3 points, il reste 2 matchs à Nantes pour les gagner. Face à Aix-Venel, à Nantes, ça sera le 19, et puis derrière, pour le dernier match, ça sera le RC Cannes. Un petit mot, Martin, toi qui connais Cyril Hong et qui aime bien suivre les volleyeuses.
Ben écoutez, je ne suis pas non plus un expert en volleyball, mais j'ai assisté justement avec toi justement à un match de volley. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cyril quelques fois, qui est même venu voir un de nos matchs de hockey. Je le salue d'ailleurs. Puis voilà, très, très sympathique. Après, techniquement, moi, je ne peux pas juger, mettons, leur championnat. Je n'y connais pas grand-chose au volley. Mais une chose est certaine, c'est que quand j'ai assisté au match justement de volley il y a environ peut-être un mois et demi, j'ai trouvé ça très, très intéressant avec une ambiance de feu qu'il y avait là-bas à Beaulieu. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super cool.
C'est clair. Alors, ça fonctionne un petit peu comme vous. Hein, c'est des play-offs. Donc, il faut absolument qu'elle reste troisième pour être le mieux placé par rapport aux adversaires en quart de finale.
Ouais, on passe aux garçons, les boys qui s'inclinent à Tourcoing.
Non, ils gagnent. Ah bon. Ils gagnent 3-1 à Tourcoing, ou alors le site de la fédération est monté à l'envers.
Le site de l'équipe aussi, alors.
Ah ben, moi, j'étais sur le site de la fédération, c'est bien marqué 1-3. Alors,
Il faudra
vérifier. Ils perdent le premier set 25-19 et gagnent les trois autres 25-16. Oui, c'est ça. 26-24 et 25-17. Pardon.
Et... Mais pas de play-off en vue pour les boys.
Non, non, non. Il restera un seul match. Ça sera à Cambrai. Ça sera le 19 aussi à 20h. Et je voulais juste, puisqu'on parlait de volley, vous parler du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique qui termine premier de la poule de la Ligue B avec 6 points d'avance sur Nancy. Il leur reste un match. Ça sera aussi le 19 à Saint-Nazaire contre Saint-Jean-d'Illiac. Donc Saint-Nazaire est encore une fois très bien placé pour les play-offs. En espérant que cette fois, ça marche pour avoir quelques derbies la saison prochaine.
D'autres résultats avant de passer au hockey ?
Oui, un petit mot de basket. Le CSP et les Déferlantes ont été battus 65-57 à Chartres. Chartres qui était deuxième au classement. Et le prochain match, ça sera aussi le 19 à la maison, la réception d'Aulnoy. Pour les garçons, c'est une victoire importante. Ouais. Victoire à domicile 91-71 face à Vichy-Clermont. Ils ont bien maîtrisé leur match, ne cédant que le troisième quart-temps 17-20. Au programme pour eux, le 18, c'est un déplacement à Denain.
Denain qui est juste devant nous au classement, alors que nous on est 16e sur 18 et donc Denain 15e. Ça va être important de gagner pour repasser devant eux.
Exactement. Et puis après, ça sera le mardi avec la réception de Saint-Quentin, le mardi 22 à 20h. Et il me reste deux scores à vous donner. La nouvelle victoire du rugby du Stade Nantais qui l'emporte 75-3 au Stade Domontois. Le Stade Nantais qui est premier, 84 points. Je vous laisse réfléchir sur la différence de points. Elle est monumentale.
Allez, moi je parie au moins 300 quelque chose, 320.
C'était pas mal, mais t'es pas assez loin.
Ah merde.
C'est plus 556 points, c'est énorme, j'avais jamais vu ça.
Comment c'est possible ?
Ils mettent des branlées à tout le monde, hein. C'est comme ça que ça s'appelle.
Pour le dire poliment. Hein.
Pour le dire poliment. Au programme, à noter, donc ça sera le 27, donc pas dimanche là, mais dimanche d'après. La réception du rival de la poule, le Racing Club Baulois, donc tous à la porte le 27 à 15h pour voir Nantes-La Baule.
C'est un dimanche.
C'est un dimanche, Fabrice. À 15h, tu pourras y aller. En plus, le bar est ouvert.
C'est à côté de chez moi.
Exactement, donc c'est parfait. Dernier résultat pour moi, c'est le match nul des Nantaises du FCN. Un but partout sur la pelouse du LOSC, donc plutôt un bon résultat. Oui. Et au vu des résultats, il n'y a que Le Havre qui a gagné, donc victoire du Havre 4-1. Donc le FC Nantais premier avec Le Havre 35 points et le LOSC est donc troisième 33 points et quatrième Lancé Metz 29 points. Prochain match, c'est dimanche prochain. Vérifiez l'horaire parce que moi j'avais 15h, mais c'est peut-être un peu plus tôt. La réception de Vandenheim à Sopin, et je vous rappelle que c'est gratuit, donc venez nombreux et nombreuses. Du coup, on peut parler de hockey.
Eh ben, on y va tout de suite avec toi, Martin, qui va nous parler de cette super saison des Corsaires, hein, qui avait pourtant pas très bien débuté. On était un peu inquiets en début de saison, mais une fin de championnat tonitruante où vous alignez les victoires.
Mais ça a été une saison en deux temps, mais si on veut l'analyser vraiment de la bonne façon, plus en profondeur, on n'était pas à notre place. On était dans le ventre mou du classement, on va dire, pendant la première partie, je dirais, du championnat. Donc, on n'était pas à notre place. Par contre, tous les matchs qu'on jouait ou ceux qu'on perdait, c'est des matchs qu'on perdait par un but ou c'est des matchs qu'on perdait par tir au but ou prolongation. Voilà, fait que c'est pas non plus, c'est vraiment la façon de gérer nos temps faibles durant le match qui a fait défaut un petit peu, puis après ça devient mental. T'sais, quand ça se répète un petit peu, ça devient mental. Alors qu'on peut pas dire qu'il y a aucune équipe depuis le début de la saison qui nous a marché dessus sur un match, si je peux me permettre cette expression-là. On a toujours été dans le coup sur tous les matchs qu'on a joués. On a 6 défaites, je crois, seulement en temps régulier. On a 2 défaites par plus d'un but depuis le début de la saison. Fait que ça, c'est quand même, ça reflète quand même beaucoup que c'est vraiment les matchs serrés. Plusieurs, on trouvait une façon de les perdre. Et plusieurs matchs aussi, on avait l'avance par plusieurs buts. Et c'est arrivé quelques fois que les équipes, justement, nous ont rattrapés. Mais on a quand même beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. On a une très bonne équipe. On savait depuis le début de l'année qu'on se devait être dans la première partie, évidemment, du tableau. Et je pense qu'on l'a prouvé sur la deuxième moitié de saison avec une deuxième moitié de saison exceptionnelle où on a engrangé beaucoup de points qui nous permet de terminer troisième au classement.
Alors au début de la semaine, on était resté sur 7 victoires. Il y a eu ce déplacement à Tours où vous avez bataillé, vous avez mené quasiment tout le match. Et au final, une défaite un petit peu rageuse, 5-4.
Face à un mal classé.
Alors Tours, c'est un faux mal classé parce que Tours, ils ont été sanctionnés de 6 points, alors de 9 points au départ et puis 6 points après à cause de problèmes de budget. Donc c'est un faux mal classé Tours. Et du coup, au vu du mail, enfin, nous, on n'était pas à Tours à la patinoire, mais pour avoir discuté un petit peu avec tout le monde, c'était assez chaud. Et puis, peut-être qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas toujours très claires de la part des arbitres.
Bon, tout ce que je peux dire, de toute façon, quand tu dis que Tours est un faux mal classé, c'est la vérité. C'est sûr que les gens, quand ils voient le classement, Tours, quand ils ont bâti leur équipe l'été dernier, ils ont bâti une équipe pour essayer d'être champion. Rien d'autre que ça. C'était pas juste pour dire oh, on va se qualifier pour les playoffs. Non, non, tu regardes l'alignement de Tours, c'était bâti pour ça. Ils ont été sanctionnés en début de saison. Au début, c'était 9 points de pénalité pour justement une question de budget ou je sais finance. Plus. Finance. Ensuite, ils leur ont redonné 3 points durant la saison. Ils avaient commencé la saison avec justement 3 défaites. Fait qu'en partant, ça leur coupe les jambes aussi. Puis ils ont eu beaucoup de blessures aussi durant la saison. Mais moi, je regarde l'équipe de Tours aujourd'hui. Puis j'avais averti notre équipe justement avant le match. On avait parlé, pour moi, Tours, c'est un top 4. C'est une équipe qui peut facilement être dans le top 4 au vu de leur alignement. Et en ce moment, ils jouent au complet. Donc voilà, ça a été un match enlevé. Puis la preuve, c'est qu'ils menaient 5-1 contre Brest samedi. C'est Brest qui a renversé la tendance au dernier tiers. Cholet, qui est dans les premiers du championnat, ont gagné seulement 2-1 à Tours il n'y a pas longtemps. Fait que Tours est capable d'accrocher tout le monde. C'est pour ça que quand Jean-Marc a dit que c'est un faux mal classé, c'est un faux mal classé.
Et du coup, alors après le match suivant, c'était le match de vendredi, la réception de Brest, le leader, avec un des meilleurs matchs, moi personnellement, de hockey que j'ai vu de ma vie en D1. Un très très beau match et une très belle victoire nantaise 5-2. Et puis je voulais écouter du coup la réaction de Paul Schmidt, le deuxième sur la liste. Merci Charlie.
Ouais, on a fait un très très gros match défensif. On a salué dans le vestiaire l'effort défensif de toute l'équipe parce qu'on s'était donné comme mission d'être très bon défensivement face à une équipe de Brest qui a beaucoup marqué, qui a peu encaissé. Et donc on a réussi notre match et notre challenge. Quoi.
Est-ce que la défaite dans la semaine à Tours a pas permis d'éviter justement est-ce qu'elle a soulagé en fait quelque part?
Non, je dirais pas ça parce que quand tu perds un match, t'es jamais content. Elle a peut-être eu l'effet de nous empêcher de nous enflammer, faire 8 victoires d'affilée. Bon, ça coupe une série, mais c'est pas très grave avant les playoffs. On vient d'assurer la 4e place, donc on est quand même content. Après, on avait vraiment à cœur de faire un gros match contre Brest parce qu'ils sont premiers, que ça nous assurait la 4e place, une victoire sur les deux derniers matchs. Et donc on a fait le match qu'il fallait et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde aussi dans les tribunes parce que c'était un gros match.
Et on sent la motivation de ton équipe. Et quand on parlait de défense retrouvée, alors vous êtes la meilleure attaque, hein, 115 buts, c'est énorme. Et au niveau de la défense, vous êtes à 78, donc la balance est bien équilibrée. Mais c'est vraiment sur le dernier mois où on a eu le sentiment de retrouver une défense du côté des Corsaires. Est-ce que c'est un peu de ton analyse?
Ben, évidemment qu'on veut, être bon dans tous les compartiments. Offensivement, je pense qu'on a débloqué les compteurs depuis une douzaine de matchs. Où on arrive à marquer des buts, vraiment, on marque beaucoup de buts régulièrement. Mais défensivement, c'est vrai qu'on est plus solide, je dirais, depuis un mois. Puis justement, c'est très important parce qu'en play-off, souvent, il se marque moins de buts. En play-off, les clubs jouent un petit peu plus défensif et tout ça. Il faut qu'on soit capable de faire ça. Et on a une très bonne défensive aussi, on a des bons gardiens de but. Puis après, on sait qu'on peut compter sur notre attaque qui peut frapper... à tout moment. Donc, pour nous, c'est important d'être bon dans tous les compartiments. Puis, évidemment qu'en même temps, on est une équipe qui aime aussi le donner le spectacle. On a une équipe qui, depuis 3 ans, on a toujours eu des équipes quand même assez spectaculaires offensivement. Mais je crois pas que ça va changer. Puis, on veut continuer à se porter à l'attaque, mais sans non plus, faut pas que ça soit fait au détriment de notre défensive. Donc, je pense qu'on a un bel équilibre.
Exactement. Et puis, du coup, samedi, c'était Nantes-Montpellier. Là, c'était pas un friendly game, hein, mais c'était.
Il n'y avait plus rien à aller chercher au classement.
Ben, en fait, la place de 4 était assurée. Il pouvait y avoir une place de 3. Est-ce qu'il fallait prendre la place de 3 ou pas? Alors, peut-être que les joueurs ont eu du mal à se mettre dedans par rapport à cette idée-là, mais en tout cas, la victoire, elle est totale, hein, 7-1 face aux Vipers de Montpellier. Et ton joueur du mois, de la saison régulière, pardon, que j'adore, et je voudrais bien un petit mot sur toi, de ta part, on va l'écouter avant, c'est Fred Bergeron, le pilier de l'équipe.
Une semaine chargée même, on peut dire un jour chargé qu'on a eu. Là, c'est sûr, le match était comme à deux tempos des deux côtés. Eux qui sont assurés du maintien et nous qui étaient en play-off. Donc, je pense qu'on a encore des petits trucs à travailler. Là, on va se reposer. Une belle semaine qui s'en vient. Hein.
Alors, tu as été élu par les supporters joueurs de la saison régulière. Ça fait plaisir?
Ça fait super chaud au cœur, hein, c'est sûr. c'est sûr, ouais. Non, avoir le vote et l'amour des supporters ici, c'est super.
Alors, je ne veux pas le différencier, mais c'est quand même un joueur qui est important, au moins dans le cœur du public.
Ben, c'est un joueur qui est important, point de ligne. Hein. C'est un joueur, je pense que Fred Bergeron n'a plus besoin de présentation. C'est non seulement un joueur talentueux, c'est un joueur qui déteste la défaite. En même temps, c'est un guerrier. C'est un joueur qui veut jamais rater de match. C'est un joueur que blessé, pas blessé, ça ne change rien à sa façon de jouer. Puis il termine meilleur pointeur du championnat. Puis c'est pleinement mérité. Je suis content pour lui. Puis je suis content aussi pour les Corsaires de Nantes. C'est toujours le fun aussi d'avoir, même si ça demeure, oui, un sport collectif, aussi les résultats de l'équipe qui prime. Mais en même temps, quand tu vois des joueurs se distinguer de cette façon-là, et on a Fred Bergeron qui termine premier compteur du championnat, moi je suis content pour lui et je suis content aussi pour l'équipe.
Donc la ligne de Bergeron, si tu peux nous la rappeler, parce que
Bergeron, il a à l'attaque, son trio, c'est Brian Tenbrack en ce moment qui joue à l'aile gauche, Fred joue au centre, puis c'est Mathieu André qui joue à droite. c'est un bel équilibre qui sur cette ligne-là. On a un mélange de tout. On a trois gars qui sont capables de marquer, mais je pense que c'est trois joueurs aussi intelligents, puis c'est trois joueurs aussi avec l'instinct offensif. Mais c'est pas non plus des gars qui trichent, c'est des gars qui vont faire les sacrifices nécessaires pour bien défendre quand c'est le moment de défendre.
Alors moi, il y a une autre ligne qui me plaît beaucoup et qui se révèle de plus en plus. C'est celle où tu retrouves Matthew Brenton, Matt O'Shaughnessy, qui est la super révélation, l'Américain, le New-Yorkais, qui est arrivé cet hiver et qui est vraiment impressionnant. Et puis surtout, un jeune joueur français qui s'appelle Brian Sautreau et qui en montre de plus en plus.
Donc... Écoute, on a beaucoup d'équilibre dans nos trios. Peu importe qui je décide d'envoyer sur la glace, on sait qu'on peut avoir une force de frappe, on peut créer le danger offensivement. Mais pour parler de la ligne à Brenton et justement au O'Shaughnessy et Sautreau, Brian Sautreau, c'est un jeune Nantais d'ailleurs. Mm. Avec énormément de talent, un bon gabarit, puis je pense qu'il est vraiment en train de monter en puissance depuis un certain temps. Matthew Brenton aussi a monté en puissance depuis un certain temps. On voit beaucoup sa rapidité. Puis sur cette ligne-là, puis après, bien, tu regardes un gars au O'Shaughnessy qui est le joueur de centre, qui est un joueur très technique avec une excellente vision de jeu. Donc ça fait un trio qui est complet. On a un mélange de tout là-dessus, des joueurs qui peuvent marquer. On a de la vitesse aussi, puis des joueurs qui travaillent fort aussi. Mais je pense que sur nos quatre trios, je dirais, parce qu'on a presque quatre trios, je pense qu'on a de l'équilibre sur tous nos trios, justement, pour essayer de que les autres équipes, même si les autres équipes veulent s'ajuster, dire « OK, il faut faire attention à tel trio, faire attention à tel trio », mais peu importe qui on envoie sur la glace, je pense qu'on peut obtenir des résultats offensivement.
Et du coup, je voulais en profiter pour écouter Brian Sautreau. Du coup, si tu peux envoyer le son, Charlie.
Ouais, ça fait plaisir. On finit la saison sur une très bonne note. Le début de saison était compliqué. Dès les matchs retour, on a su revenir dedans et on finit de la belle manière. Deux victoires à domicile, une contre les premiers et une autre contre les douzièmes. Mais au moins, on y a mis la forme et on a été jusqu'au bout. Et après, personnellement, c'est sûr que ça fait du bien d'être revenu. J'ai vécu un début de saison compliqué, un peu comme l'équipe. Et depuis les matchs retour, je suis revenu dedans. Donc ça fait toujours plaisir d'aider l'équipe à gagner, quoi.
Et il le dit lui-même, hein, c'est ça qui est bien. Il a été élu homme du match, du coup, contre Montpellier. Mais c'est comme tu le dis, tu as différents joueurs et moi j'apprécie beaucoup sa progression dans la saison qui a été vraiment importante.
Ben, c'est certain que si on préfère faire les choses dans cet ordre-là, évidemment qu'on, t'sais, je pense que tout le monde voudrait avoir des saisons parfaites où ce que tout coule, comme on dit, un long fleuve tranquille, mais je veux dire, c'est pas le cas, c'est le sport, tu sais jamais exactement comment ça va se passer. L'important, c'est de garder un bon état d'esprit, d'apporter les correctifs nécessaires, puis je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit aux joueurs qui ont quand même fait une prise de conscience durant la saison, mais il n'y a pas eu de moment de panique, là, je veux dire. C'est certain que si on avait perdu 3-4 matchs à un moment donné, 6-1, 5-0, 7-2, là, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a jamais, jamais, jamais été le cas. Je veux dire, la majorité des matchs qu'on perdait au niveau des statistiques, c'est, on avait quand même une certaine domination dans ces matchs-là. C'est, ça devenait très mental à un moment donné par la suite, ça devenait lourd. Mais on a toujours été quand même dans la course pour les playoffs. C'est juste qu'on était dans le ventre mou. On est attendu parce que ils nous ont. Je pense que c'est la troisième année là, que je suis ici. Puis à chaque année, on a une des équipes quand même très, très compétitive, qui a beaucoup d'ambition. Fait que c'est normal qu'on est attendu par toutes les équipes qui jouent contre nous. Les équipes sont prêtes. Donc voilà. Puis je pense qu'on a trouvé notre vitesse de croisière. Je cherchais les mots. On a trouvé notre vitesse de croisière, je dirais, peut-être régulière à la mi-saison. Puis pour le moment, je pense qu'on s'est mis en mode play-off.
On en parle de ces playoffs, Martin. Dans quel état d'esprit vous les abordez? Est-ce que c'est vraiment pour aller au bout, pour aller chercher ce ticket, pour aller dans l'élite?
Écoute, moi, j'ai comme philosophie qu'on y va un match à la fois, qu'on y va surtout une série à la fois. Je pense que les 8 clubs qui sont en playoffs en ce moment, quand tu accèdes aux playoffs et tout, je pense que les 8 clubs qui sont là veulent aller au bout.
C'est souvent pas le meilleur qui l'emporte, mais celui qui en veut le plus.
Ben ça, c'est certain. Mais je pense qu'au niveau motivation, je suis pas inquiet du tout pour notre équipe. Je pense qu'on est motivé, on est déjà lancé depuis un certain temps. Par contre, je pense qu'on a une équipe d'expérience, puis c'est impossible qu'on pêche par excès de confiance contre l'équipe de Caen. Puis on sait
surtout
que
sur 5 matchs.
Puis Caen a été dans le top 4 pratiquement toute la saison. Il termine 6e, fait que tu sais, c'est... Tout peut arriver en play-off, mais c'est certain que nous, on joue pour gagner, c'est certain. Mais comme je dis, la philosophie, c'est vraiment de voir à court terme puis de ne pas commencer à parler de champion, de Magnus et quoi que ce soit. Là. Ça, on évite ça, puis on se concentre sur l'équipe de Caen. Puis si on arrive à passer Caen, évidemment. Après ça, on va se concentrer sur la demi-finale. Puis après, si on passe la demi-finale rendu là, ben là, quand ça sera rendu en finale, ben là, on n'aura plus le choix. On pourra commencer à parler de ce que tu viens de me parler.
Justement, quand on va les attaquer, donc on rappelle que les matchs, ça sera samedi 18h pour le premier match, dimanche 17h pour le deuxième match. Quand qui vous a battu deux fois en saison régulière, mais que vous avez battu en Coupe de France?
Exactement. C'est une équipe qui... je pense qu'ils ont toujours le même profil depuis plusieurs années. C'est une équipe qui excelle défensivement. C'est une équipe qui est axée vraiment sur la défensive beaucoup depuis plusieurs années. C'est une équipe qui compte Roland Kemener dans les buts, qui est certainement un des meilleurs gardiens de but du championnat, si ce n'est pas le meilleur, qui était même excellent en Ligue Magnus. Voilà. Puis nous, on a une grosse attaque. Fait que j'imagine que ça va être quand même assez défensif contre nous. Ils vont essayer de nous contrer. Puis Caen a toujours eu une belle équipe à chaque année. Fait que ça devrait être une série très disputée. Puis sincèrement, je pense que ça va être un beau spectacle. Puis comme je dis, on devrait être prêt. Puis je m'attends à ce que l'équipe de Caen soit prêt aussi pour que ça donne une belle série.
Eh bien, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs. Ça sera samedi et dimanche au Petit Port à 18h hein, pour les deux premiers matchs de la série de play-offs.
Juste une petite question, Martin. Vu que tu en parlais de Magnus, regarde, est-ce que c'est l'année d'Angers ou pas cette année?
Ben, écoutez, là, c'est certain que là, c'est familial parce que mon frère est manager général là-bas. Grenoble est une très, très grosse équipe. Je m'attends, sincèrement, je pense comme tout le monde, on voit trois équipes qui peuvent être champions cette année, je crois, à Magnus. Selon moi, ce serait Grenoble, Rouen et Angers. Angers a terminé deuxième. Grenoble est une très, très grosse équipe. Angers une très grosse équipe. Rouen une très grosse équipe. Mais sincèrement, je souhaite que ça soit l'année d'Angers.
Angers, nos voisins, aussi. Bien sûr, on les soutient aussi. Allez.
Surtout que c'est en cours actuellement le premier tour des playoffs de Ligue Magnus.
C'est ça.
Et chaque équipe, pour l'instant, a gagné 2-0 chez elle. Donc tout se passe bien pour les grosses équipes.
Allez Martin, tu restes avec nous pour débriefer le reste de l'actualité. On va parler de cyclisme, c'est chasse-patate.
Chasse-patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et on parle de vélo avec toi, Charles. À une semaine de Milan-San Remo, il y avait deux tours d'une semaine cette semaine. C'était Paris-Nice et Tirreno-Adriatico.
Exactement, on avait deux belles classiques, enfin course par étapes pour le Tour, avec, bon, on va parler un petit peu de la France, et on était sur le fameux Paris-Nice, hein, qui prépare toutes les grandes classiques, notamment les classiques italiennes hein, qui arrivent, mais avec, notamment comme tu le disais, Milan-San Remo. Et cette année, c'est bien Primoz Roglic qui s'impose au classement général, la Jumbo-Visma qui a vraiment été très solide sur cette... sur ce Paris-Nice avec notamment Christophe Laporte, Wout van Aert et Primoz Roglic qui ont été vraiment très présents avec surtout la première victoire d'étape de Christophe Laporte en World Tour, on s'en souvient. Et puis Wout van Aert qui gagne aussi le contre-la-montre.
Est-ce que les Jumbo ils peuvent dire un grand merci à Wout van Aert qui aide Christophe Laporte à gagner la première étape et qui met Roglic sur son porte-bagage pour éviter qu'il perde le classement général?
Exactement, sur cette dernière étape qui passe notamment par le Col d'Aise à la fin, on connaît avec une partie à un moment à 13,5%, ça c'est très, 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 très pentu. Et à ce moment-là, ils ne sont plus que 4, c'est-à-dire qu'on a Primoz Roglic, Wout van Aert, Nairo Quintana et Simon Yates. Nairo Quintana craquera plus haut dans la montée et Simon Yates a attaqué, est parti, il a pris 20, il était à 25 secondes d'avance à la fin en haut du Col d'Aise. Et heureusement, Wout van Aert était là pour suppléer Primoz Roglic parce que sans lui, à mon avis, il aurait craqué. Hein, presque
Primoz... Il aurait craqué et perdu, et perdu le Paris-Nice.
C'est possible, effectivement. On sait que Roglic a énormément de difficultés, surtout sur les courses par étapes en France. Hein. C'est sa première victoire en course par étapes en France. Quand on connaît ce qu'il a vécu avec le Tour de France, même Paris-Nice l'année dernière où il avait chuté et il n'avait pas pu du coup gagner ce Paris-Nice. Donc on sentait qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait encore se passer. Cette dramaturgie, Roglic en France qu'on connaît, et finalement Wout van Aert comme l'a dit Roglic très bien à la fin de ce Paris-Nice, que c'était mi-humain mi-moto, il est tellement bon partout que il a aidé là,
il
certainement.
Peut s'appuyer sur un grand lieutenant Wout van Aert, ce qui n'est pas le cas de Pogacar qui gagne tout seul encore une fois l'autre grande course du mois de mars, le Tirreno-Adriatico.
Exactement, Tirreno-Adriatico en Italie, avec notamment, on s'attendait à un gros combat, notamment face à Remco Evenepoel ou Julien Alaphilippe, tous deux de la Quick-Step Alpha Vinyl. Mais finalement, Pogacar surclasse, que ça soit. Il est bon dans le contre-la-montre, il surclasse surtout les étapes par étapes. Il a un punch, il a une facilité à déposer ses adversaires.
Déjà vainqueur d'Estrade Bianche le week-end dernier.
Pour l'instant, toutes les courses par étapes à quelle partie, on a l'impression qu'il gagne toutes. Double vainqueur du Tour de France. C'est son premier, il a fait le doublé, hein, Tirreno. Adriatico, il avait déjà remporté l'année dernière, notamment face à Primoz Roglic et Julien Alaphilippe. Donc on est vraiment sur un phénomène, peut-être le nouveau Dimers.
Va falloir le prouver le week-end prochain sur Milan-San Remo.
Mais c'est Milan-San Remo, et on sait que Milan-San Remo, c'est pas simple. Et on sait qu'il a dit qu'il était possible d'attaquer directement dès la Cipressa. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que souvent, c'est le Poggio qui finit qui permet de libérer les favoris, tout ça, où ça se dispute, et finalement c'est dans la descente on connaît, mais finalement lui il se dit c'est possible de le chiffrer ça, et de ce qu'on voit actuellement de Pogacar, c'est possible.
Et Alaphilippe
évidemment il sera
là
aussi. Oui, normalement il devrait être là.
Avec sa chute, il s'est bien remis.
Il sera là avec Remco Evenepoel aussi, hein, le Belge de 21 ans, hein, c'est encore très jeune aussi. Donc il y aura vraiment des gros favoris. On sait que Caleb Ewan aussi s'est préparé pour ce monument et qu'il le veut aussi. On l'a vu l'année dernière, il avait fait un bon résultat. Mais donc ça va être vraiment un Milan-San Remo très ouvert avec le gros favori qu'on voit depuis le début de la saison, c'est Tadej Pogacar.
Alaphilippe l'a mis dans son objectif, hein, cette année. Milan-San Remo, il a dit pour l'instant c'est un objectif.
Ah il l'a déjà gagné.
Maintenant il faut qu'il revienne de sa blessure, quoi. Il a fait une grosse chute.
Oui, évidemment, c'est sa chute sur la Strade Bianche qui forcément l'a gêné, surtout pour le final de la Strade Bianche et pour ce Tirreno. Faudra voir si effectivement ce samedi il sera totalement remis, mais normalement ça devrait aller. Après voilà, on sait que Julien Alaphilippe, il a déjà gagné Milan-San Remo. Est-ce que il sera plus en aide pour un Remco Evenepoel qui lui n'a toujours pas gagné, pour aider et pour se battre finalement avec Tadej Pogacar? On sait que finalement les côtes de fin de Milan-San Remo sont moins pentues, et forcément Remco Evenepoel préfère ça que les grandes côtes comme on a vu sur le Tirreno ou sur la Strade Bianche, enfin même pas sur la Strade Bianche mais sur les autres tours comme le Tour d'Italie l'année dernière où on voit que il pouvait pas. Donc c'est là où ça peut jouer pour Remco Evenepoel face à une bataille avec Tadej Pogacar plutôt.
Ouais, quand on parle du Stelvio ou du Tourmalet, quoi.
Oui, non, mais voilà, c'est autre chose.
Milan-San Remo, on en reparle lundi prochain. En attendant, on débriefe le reste de l'actualité sportive. Charlie, c'est Multizone.
Money time.
Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de rugby dans cette troisième partie d'émission. On parle du tournoi, quatrième journée, avec un déplacement au Pays de Galles pour les Bleus. Et le job a été fait dans la douleur.
Exactement, hein. On sait que c'était l'important, c'est ce quatrième match qui nous a fait défaut, notamment l'année dernière, on se souvient, face à l'Écosse, si je crois bien, ce qui ne nous avait pas permis de remporter ce tournoi. Et qui avait, et voilà. Donc c'est pour ça que c'était un match très important, surtout face aux Gallois, au Pays de Galles, qui eux n'ont pas réalisé pour l'instant un grand tournoi et qui forcément sont entre guillemets reviennent, sont un peu vengeurs, ils veulent finalement
se ressaisir, hein, mine de rien,
et c'est ça aussi, ils sont tenants du titre. Donc c'était vraiment un défi aussi, c'est de battre les Français. Actuellement on sait que les Français ils ont battu les All Blacks en décembre dernier, là ils enchaînent 3 victoires d'affilée, et ils ont envie de les battre, et c'était pas simple, mais pourtant les Français sont encore
grosse défense
avec un Julien Marchand encore présent, incroyable le talonneur français. Et puis voilà, on a vu des Français solidaires avec forcément ce premier essai assez rapide finalement dans la rencontre qui a permis de s'assurer un petit peu cet essai-là, et après on a bien défendu, et puis on a avec des jeux au pied formidables, voilà, on a plus rien à dire,
hein. Oui, le score reste quand même
très faible. Mais c'est un match, c'était un match très tendu, avec peu finalement d'entrain, parce que c'était un match finalement très serré où on sentait que ça se redoutait un petit peu des deux côtés, où les Français ne sont pas allés forcément totalement dans le cœur du jeu, au fond du jeu.
Et comme on a vu que les Gallois depuis le début du tournoi jouent souvent les points par pénalité, ou les fautes en touche, ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi, du coup c'est ce qu'ils ont fait ce match-là avec 3 pénalités.
C'est ça, et ça, à la mi-temps il y avait 19 si je crois bien, donc on a eu finalement que 3 points en deuxième période.
Ça se joue
finalement à très peu de choses, mais la France a ce petit truc en plus cette année, et on sent qu'ils sont vraiment très très forts, où ils ont forcément la meilleure équipe peut-être du monde actuellement. On sait qu'ils sont passés troisième au classement nation, derrière notamment l'Australie, l'Afrique du Sud, qu'est-ce que je raconte, et la Nouvelle-Zélande. Donc il y a vraiment cette montée en puissance de l'équipe de France actuellement. On voit finalement peut-être imbattable et pour réaliser le grand chelem.
Bonne augure pour la Coupe du Monde qui arrive bientôt. C'est
2023 en France. On prend ses billets.
2023, donc voilà, il y a des matchs à Nantes d'ailleurs.
Notamment avec le Pays de Galles qu'on verra.
Martin, le rugby, c'est un sport que tu suis un petit peu.
Oui,
le Canada a une sélection, ils font les Coupes du Monde.
Oui, le Canada, écoute, c'est certain que c'est pas une
force. Canucks.
C'est pas les Canucks, c'est pas une force, mettons, du rugby, mais c'est une équipe, je pense que quand j'écoute, je regarde un petit peu le rugby, même les commentateurs français et tout, ils disent toujours, les Canadiens, mettons, au rugby, tu sais, sans que ça soit techniquement une grosse équipe, mais je pense qu'ils se défoncent à tous les matchs, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais sur la durée, ils peuvent pas. Puis pour avoir été vécu 3 ans à Bordeaux, j'étais entraîneur justement à Bordeaux pendant 3 ans, puis de 2013 à 2016, donc j'allais régulièrement voir l'UBB à Bordeaux, parce que je connaissais quelques joueurs justement de l'UBB, eux venaient voir nos matchs de hockey. Puis moi, j'allais voir les matchs de l'UBB, puis j'ai surtout, je dirais, découvert le rugby à ce moment-là. Puis c'est un sport que j'aime beaucoup. Puis je te dirais même qu'au niveau des valeurs et des mentalités, ça se rapproche beaucoup du hockey sur glace.
Et souvent, on parle des Canadiens comme étant, de l'équipe de rugby comme étant des bûcherons qui vont vous massacrer. Et souvent, ça fait très mal. C'est souvent une des équipes que les gens n'aiment pas affronter parce qu'ils sortent avec des bleus.
Ouais, donc pour les bleus, il faudra finir le boulot au Stade de France samedi 21h face aux Anglais qui ont perdu leur deuxième match du tournoi contre l'Irlande et bien perdu. Hein,
très bien perdu.
Pas d'essai.
Carton rouge notamment adressé par l'arbitre français dès la première minute. Donc déjà, ça les mettait forcément dans la sauce. Et puis à la fin, on a senti que les Irlandais étaient largement au-dessus. Et l'Irlande qui défiera l'Écosse, si je crois bien, en dernier match. À ce moment-là, ça va être aussi l'Écosse redoutable dans ce tournoi actuellement.
L'Écosse peut battre l'Irlande, la France peut battre les Anglais. Les Anglais peuvent terminer cinquième derrière.
Non, mais c'est ça, c'est très très
juste
serré.
Devant l'Italie, attention. Voilà,
c'est très serré.
Et ça va être très intéressant. Et comme je disais à Mathieu, pour un crunch avec toi, je ferai n'importe quoi. Donc je pense que ça va bien. Non, les Anglais sont toujours ultra motivés quand ils jouent la France, même s'ils ne peuvent plus gagner le tournoi.
Allez, on change de sport. Un mot de tennis. Indian Wells qui a démarré.
C'est ça, donc c'est le tournoi d'Indian Wells, le Masters 1000 qui enchaîne juste après. On aura Miami évidemment.
Sanjoko,
bah évidemment on s'y attendait, il était inscrit sur le tournoi parce que sur les pré-saisons ils s'inscrivent directement automatiquement, puis finalement à cause
toujours des problèmes de passe sanitaire.
Exactement. Pour l'instant les grands favoris sont là sauf un, c'est Alexander Zverev pour son retour après son gros coup de sang à Acapulco. Il n'a finalement pas été sanctionné sportivement hormis avoir pris une amende. S'est fait sortir finalement dès son entrée en lice face c'était si je me, j'ai plus le nom du joueur
pardon.
C'était j'arrive tout de suite hein, excusez-moi mais voilà sinon tous les autres pour l'instant Nadal a gagné. Nadal joue à 21h.
Nadal est passé de justesse.
Oui, face à Sébastien Corda, il a totalement été mené 5-2 dans le troisième set, donc ça n'a pas été simple pour lui. Il a su, encore une fois, faire une remontée fantastique pour pouvoir remporter en 3-7. 16e victoire d'affilée cette saison. C'est pour l'instant, il est toujours sur sa meilleure début de saison de sa carrière. Pour l'instant, Nadal affronte, il va affronter donc, ce soir à 21h son match de troisième tour. C'était Tommy Paul qui a affronté donc, Zverev, qui a battu Zverev en 3-7. Donc, seul pour l'instant, grosse surprise. Hormis aussi Félix Auger-Aliassime, le Canadien malheureusement qui s'est fait battre directement au premier tour dès son entrée en lice, donc c'est un peu dommage pour lui qui ressort notamment avec l'ATP 500 de Rotterdam qu'il avait remporté il n'y a pas longtemps.
Gaël Monfils qui affrontera
Medvedev actuellement c'est en cours et je peux vous dire que pour l'instant il y a 4-4, donc Monfils est dans le coup.
Ouais, beau début de saison pour le Français. On passe au golf, c'est The Player en ce moment, le cinquième majeur du circuit américain dans des conditions dantesques. Hein, entre le vent, la pluie, on n'a pas encore joué 54 trous à l'heure où on vous parle. C'est l'Indien Hannibal Lahiri qui est en tête à moins 9.
Alors. Actuellement, le score a évolué depuis. Il était en tête, effectivement, après la troisième journée. Pour l'instant, effectivement, c'est Cameron Smith, l'Australien, qui pour l'instant est en tête actuellement. Mais bon, ça vient de débuter, donc il a seulement deux coups d'avance sur Knox et Lahiri, comme tu le disais. Donc c'est en cours.
Il va falloir suivre ça. Exactement. Ce soir.
Y a-t-il un Français ?
Passionnant. Non, Paul Barjon, malheureusement, n'était pas qualifié. On vous donnera des nouvelles de Paul dès qu'on en aura.
Non, la plupart des Français jouent en Afrique du Sud cette semaine-là. Il y a des bonnes petites places pour les Français en Afrique du Sud.
On était à Picanwood Classic et tout, et notamment la 9e place de Romain Langasque, qui finit donc à moins 18, donc c'est plutôt pas mauvais. Hein. Il est à seulement moins 4 de Larrazabal, l'Espagnol, qui s'impose devant son compère Arnos.
Allez, on parle de sport d'hiver sans jingle, mon Charlie. La saison de biathlon se termine, c'était l'avant-dernière étape de Coupe du Monde. On était à OTPA en Estonie et Quentin Fillon-Maillet a enfin concrétisé tous les espoirs qu'on avait mis en lui pour soulever le gros globe de cristal.
Comme tu nous l'as rappelé avec Clément Lebas la semaine dernière. Exactement, il a d'ailleurs commencé par le sprint qu'il a remporté.
Ah bon ? Non. Eh ben, si. Et voilà, c'est une grosse surprise, hein, mais c'est incroyable. Hein. Quentin Fillon-Maillet qui a une nouvelle victoire, facilité 10 sur 10. Il s'impose devant notamment, si je crois bien, c'est Johannes Kuhn qui finit deuxième, si je crois bien. Johannes Kuhn est plus loin, c'est l'autre Allemand, c'est Benedikt Doll qui est sur le podium, troisième, et Laugrid deuxième. Donc, nouvelle victoire, il est monstrueux cette saison, Quentin Fillon-Maillet.
Mais il ne gagne pas tout le temps, puisque le lendemain, la Mastart...
C'est un petit peu celui qui l'empêche un peu de gagner à chaque fois, que ce soit sur le relais. Quatrième relayeur, c'est le Norvégien. Bentley Christiansen, meilleur Norvégien cette saison pour l'instant.
Et puis sur les dernières épreuves, en l'absence de Beu, c'est vraiment lui le patron de l'équipe Viking.
Avec Laugrid qui revient bien aussi. Là,
Quentin qui aura quand même trois courses la semaine prochaine pour étoffer son palmarès, en parce qu'il a encore très très faim.
Alors, il a... Le gros globe, c'est fait.
Ça, c'est fait. La poursuite, c'est fait.
C'est fait.
Il reste le sprint, ça peut encore se jouer avec Samuelsson, si je crois bien.
Et la Mastart,
où ça va jouer avec Benedikt Doll.
Il est que deuxième sur la Mastart, où il est passé
Benedikt
premier.
Doll, il s'affrontait avec Benedikt Doll, donc c'est possible qu'il soit passé devant. Je vais vous dire ça rapidement.
Et le temps que tu cherches, on parle des filles et de la belle victoire de Julia Simon sur le sprint, justement, c'était samedi.
Très belle perf et avec une belle avance, puisque je crois qu'elle a fait un 9 sur 10, non ?
Ouais. Alors, première victoire pour elle cette saison, mais l'année prochaine, avec Justine Brezaz, on a deux gros skieurs, peut-être enfin pour aller chercher le gros globe, parce qu'on sait que sur les skis, ces deux filles, elles n'ont pas beaucoup de rivales.
Oui, en vitesse, c'est clair qu'il y en a très peu. On a vu que, bon, il y a eu Elvira Heuberg à un moment donné dans la saison, ouais, qui est revenue fort.
Un petit peu avant les JO, tout ça.
Hier,
et puis elle fait encore une bonne course et tout. Elle fait encore sur le podium, notamment. Donc, Elvira Heuberg est impressionnante. Elle est très, très jeune. C'est la sœur d'Anna Heuberg. Mais elle est, donc, à mon avis, elle finira deuxième.
De toute façon, c'est l'avenir du ski alpin, ouais, puisque Roy Zeland a 32 ans, elle ne va pas non plus continuer 5 ans à briller.
Oui, enfin, elle va quand même ramasser son gros globe.
Martin, au Canada, le biathlon, c'est un sport que les gens suivent.
Oui, mais c'est pas non plus le...
Il y a une étape de Coupe du Monde qui a lieu à Canmore, ou à Presqu'île, selon les années.
Après, on n'est pas au niveau historique, je dirais, en biathlon, au niveau médaille et tout ça. C'est pas, mettons... Oui, en sport d'hiver, on est beaucoup mieux en sport d'hiver qu'en sport d'été.
Plutôt du ski alpin, là-bas.
Ski alpin, le ski au niveau du ski acrobatique, ski de boss et tous ces trucs-là avec Michael
Kingsbury.
Les trois sœurs du Four-la-Pointe et compagnie, je veux dire, il y en a beaucoup... là-dessus, Jean-Luc Brassard à l'époque qui avait eu, Alexandre Bilodeau et tout ça, on a toujours été fort en ça. Voilà, mais c'est plus au sport. Le biathlon, j'en entends un peu moins parler, puis je connais moins. Mais par
même
contre,
le ski de fond, il n'y a pas de Canadiens en ski de fond.
Il y en a eu à l'époque avec un dénommé Harvey, qui a été très, très bon, mais là, ça fait longtemps. Mais je veux dire, par contre, quand je regarde justement au JO, les épreuves de ski de fond, parce que j'ai toujours aimé beaucoup regarder les JO d'hiver, je trouve les paysages, c'est panoramique, c'est incroyable, c'est que ça soit avec la neige et tout ça. Mais je veux dire, au niveau du biathlon, je regarde beaucoup les épreuves. Par contre, je ne connais pas trop les...
Eh bien, je vais te donner des résultats, notamment.
Je voulais te donner le seul, et je vous mets au défi d'en trouver un. Pour moi, le seul Canadien connu, c'est Steve Burnott.
Steve Burnott, oui, c'est vrai.
En biathlon.
Et Christian Go.
Christian Go.
Il y a Christian Go.
Les frères Go. C'est Cameron Go.
Les frères Go. Ouais, un résultat en ski de fond, sprint.
J'ai juste vous donner du coup pour l'instant les classements au niveau de Quentin Fillon-Maillet. Il est pour l'instant au sprint. Il n'est pas encore sûr de l'avoir parce qu'il y a moins de 60 points d'écart. Mais il a 348 points alors que Samuelson en a 292. Et pareil, avec sa deuxième place sur la Mastart, il est devant avec 142 points. Pour lui, et donc Christiansen deuxième à 127, donc ça va être aussi très serré, mais il est en bonne position pour remporter ces deux aussi petits globes.
Très bien, alors je poursuis sur le ski de fond parce qu'une très bonne nouvelle est arrivée ce week-end avec le premier globe de cristal
petit
pour un
globe.
Fondeur français,
Richard
Jouve, oui, qui a bénéficié, c'est vrai, de la non-présence
des Russes.
De Johannes Klebo, qui,
post-Covid,
ne pouvait pas participer à l'épreuve, aussi, et bien lui en a pris, car notre Français Richard part avec un globe, et c'est le premier Français à réaliser cet exploit.
Exactement, une victoire, notamment sur cette dernière étape, et c'est magnifique, hein, sur le ski de fond, c'est pas forcément... Ça nous réussit aux Jeux Olympiques, on a quand même fait des médailles, hein, on l'a fait sur le relais notamment, mais c'est vrai qu'il y a toujours le spectre un peu des Russes, des Norvégiens qui sont largement au-dessus, et là, d'enfin gratter un petit peu ce petit globe, ça fait du bien à la France, qui est quand même une nation de ski de fond... biathlon de ski en général, donc ça fait du bien.
Charlie, il nous reste 10 minutes pour parler de football. C'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez Fab, on commence avec toi. Le FC Nantes devait poursuivre l'embellie observée il y a déjà 5 journées, mais défaite à 3, 1-0.
Ouais, un match un petit peu contradictoire, une très mauvaise entame de match, des blessures tout de suite, Palois qui est sorti, remplacé par Traoré, et puis voilà quoi, ça. On paye, on prend un but, et après on a du mal à revenir, on fait une bonne deuxième mi-temps. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est Giroto, c'est Fabio,
Palois
et Traoré qui sont blessés. Ouais. On est à 54 jours de la finale, si je ne me trompe pas.
Ouais, l'objectif, ouais. C'est ça.
Je pense que c'est l'objectif. Voilà. Maintenant, on reçoit Lille samedi soir avec un effectif quand même un peu affaibli. Je pense qu'il va faire tourner Antoine Comboiré. Mais
maintien est assuré. Est-ce qu'il faut se battre pour aller chercher l'Europe?
Là, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Se concentrer sur le titre.
Je pense que c'est ce qu'ils ont de mieux à faire.
Ouais.
je pense que ce qu'ils ont mieux à faire, logique, c'est...
Objectif le 7 mai.
Alors, on dit, voilà, c'est une marche ratée contre 3. C'est vrai que, bon, c'est pas une équipe non plus exceptionnelle,
c'est
mais voilà.
C'est une équipe qui joue, hein, on se souvient des bonnes saisons face au PSG. Bien, ouais. Là, il y a le petit Canadien qui a été prêté, qui est prêté à 3, c'est Ike Ugbo, qui a marqué son troisième but en Ligue 1 aussi, donc, ouais. qui arrive du mercato hivernal. Donc, 3, c'est une équipe qui est joueuse, et c'est ouais, pas, ça n'a jamais été simple de débarrasser de 3 comme ça.
Peu importe, on a fait nos matchs. Maintenant, il faut se dire ce qui s'est passé depuis un mois, quand même, qui a été phénoménal.
Je pense qu'il y a une petite baisse mentalement, je pense qu'après tout ce qui s'est passé.
Voilà, les gens. Les joueurs ont commencé à.
Puis on sait qu'à Nantes, il n'y a pas un banc non plus pour être là.
Non, évidemment. C'est ça. Dès qu'il manque un joueur majeur comme un Nicolas Palois, on sait que derrière, forcément, ça va être dur. Pas. C'est dur. Et Charles Traoré, bon, c'est pas du niveau de Nicolas Palois, et surtout que c'est pas un défenseur central. On sait que ça. C'est que s'il manque une pièce, ça peut bloquer tout l'enrouage.
Contre Lille, ça va être un gros défi. La feuille de match révélateur, un peu, on va savoir qui va aligner samedi soir contre Lille, quand même, qui est pas mal. Qui repassait devant nous d'ailleurs, et enfin, savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre eux. Et si Antoine Comboiré est confiant, il dit voilà, il va même faire rentrer des joueurs, apparemment, il l'a dit, faire rentrer des nouveaux joueurs pour un peu les lancer. Et puis,
pourquoi pas le petit Silla qui peut jouer en défense en
Lancer
des jeunes avec Merlin. Merlin,
parce que moi, pour moi, la révélation, c'est Merlin.
Ah, bah oui, c'est sûr. Cette année, là.
Il m'impressionne. Il
nous enchante, hein, sans mauvais jeu de mots, mais c'est incroyable.
Il m'enchante. Merci, Charles.
Allez, on parle de nos voisins et de nos voisins rennais pour commencer.
Et du coup, les rennais en championnat qui ont battu Lyon une nouvelle fois sur le score. À Lyon en plus.
Beau match.
Où Rennes a mené 4-0 après la mi-temps. Et en plus de ça, par Mathieu Terrier, un ancien Lyonnais, sur une superbe frappe en lucarne.
Que des beaux buts. Les 4 buts sont magnifiques.
Même les actions d'avant avec le Romayeur et tout.
Ils ont eu que de la réussite. Sur leurs 4 premiers buts, je crois que c'est sur 6 tirs cadrés ou 5 tirs cadrés.
Deux équipes qui ont joué la Coupe d'Europe cette semaine et fortune diverse ce week-end. Voilà. Puisque Rennes avait perdu 2-0 face à Leicester.
Lyon s'était imposé à Porto, une première depuis très très longtemps.
Depuis Nantes
d'ailleurs. Donc, et je pense que ça aussi, après l'énorme match, en plus, on fait un très gros match face à Porto. Je pense que mentalement, c'est comme ça, forcément, ça plonge un petit peu alors qu'on s'attendait à une poursuite de cette dynamique où ça allait mieux. Mais finalement, il n'y a vraiment qu'en Ligue Europa où Lyon arrive à performer.
Jérémy, je vais te poser une question. Rennes contre Leicester, c'est une erreur. C'est une faute.
C'est une erreur de parcours. Et
Bruno Genesio n'était pas content.
En plus de ça, il y a eu quand même deux faits de match. Même trois faits de match, la double main en premier temps de Leicester où ça a pu donner à penalty. Et en fin de match, le corner non sifflé et la faute sur le Romayeur. Et en gros, ce qui fait que Rennes, en 5 déplacements en Angleterre, on se fait toujours baiser la gueule.
Alors que Lyon, bénéficiaient de la VAR. Un penalty annulé, un but refusé pour Porto, là on a été bien gâtés.
Mais sur le contenu du match, Rennes a quand même dominé Leicester. Et je pense que le match retour à Rennes, Rennes va s'imposer et va faire un très grand match contre Leicester.
Alors, autre résultat des voisins, Lorient qui bat Clermont... là-bas d'ailleurs, 2-0, qui se relance.
Nos amis angevins, qui malheureusement sont une 7e défaite.
Attention, première équipe en danger pour la relégation.
C'est la pire équipe en Europe l'instant sur les matchs en cours. Avec 7 défaites d'affilée, c'est la pire série en cours.
Avec une équipe anglaise,
malheureusement.
Une défaite 1-0 à domicile, battue par le Stade de Reims. Ouais. Ça sent la vieille affiche, ça. Avec un carton rouge de chaque équipe. Et puis, pour la dernière équipe du coin, Brest
qui s'est fait massacrer.
Par Marseille.
Par Marseille, oui. C'est des équipes qui sont en bas de classement, évidemment, ou dans le ventre mou. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est une équipe comme Bordeaux.
Pas Bordeaux va être relégué.
Bordeaux est relégué.
Moi, je suis pas inquiet. Je t'avoue que
Bordeaux mérite pas. Bordeaux, ça mérite pas de.
On peut faire un petit point sur le classement. C'est que Bordeaux est dernier avec 22 points. Metz, 19e, 23 points. Et que derrière, déjà, ça a 3 points d'avance avec Saint-Etienne, 26 points, 18e. Lorient avait 27 points. Clermont à 28. 3 à 28.
Ouais, jusqu'à Angers, ça se bat pour le maintien.
Mais on sent qu'il y a quand même deux clubs qui commencent à vraiment à creuser, à sembler. Ça commence à être difficile. Ça va être Bordeaux.
Bordeaux-Metz. Mais Angers. on dit.
Ah, mais Angers,
voilà,
ça, mais c'est, ils sont Angers, à 3
c'est
points,
la mauvaise spirale. Là.
3 ouais. points de Saint-Etienne.
Heureusement que ça va mieux.
Prochaine journée, ils peuvent passer de la 14e place à la 19e, à 18e place.
Ouais, ça, peut, ça peut être très compliqué pour eux.
Ouais.
Mais Bordeaux, on en parlait tout à l'heure, à Bordeaux, ce qui est intéressant, c'est l'équipe de hockey, les boxers, et l'UBB, l'Union Bordeaux.
Et le rouge.
Et les rugbymen qui eux aussi ont perdu d'ailleurs.
Et les bonnes caves. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas descendre cette année pour éviter, pour remonter l'année prochaine pour éviter.
Économiquement, mais c'est. Non,
je pense que.
Je sais bien, mais.
Gérard Lopez, là, il est dans la sauce. Hein,
bah, et, ou à moins qu'ils font, à moins qu'ils font, à moins qu'ils font comme Toulouse, ils descendent pendant 2 ans, ils remontent après en grand champion.
Ouais, bien sûr, mais après, c'est différent parce que bah, Bordeaux, Toulouse, ça reste un club quand même très mythique de ce type de Ligue 1.
Mais si je peux me permettre, sans trop connaître le foot en fou, j'allais beaucoup voir les matchs à Bordeaux. J'étais souvent invité à Chaban-Delma. Mmh. D'ailleurs, j'ai été invité justement pour la fermeture de Chaban-Delma. J'étais au match. Puis, j'étais aussi à plusieurs reprises à Matmut, le nouveau stade. Puis, pour moi, ça serait une catastrophe d'avoir une équipe qui vient de construire un nouveau stade comme ça.
Économiquement, c'est un naufrage.
Une équipe mythique. Puis tu dis, ça s'en va en Ligue 2. Pour moi, c'est impensable. Pour moi, c'est impensable.
Je ils ont déjà fait un tour en Ligue 2 dans les fins des années 90.
Ouais,
années
95.
2000.
95, c'était financièrement.
Alors, bah là, c'est
pour Georges Bell.
Je voulais expliquer un truc à Martin, c'est que c'est un peu une spécialité française puisque c'est arrivé au Mans, à Sedan,
au Mans,
toutes les équipes avec des nouveaux stades ou des stades reconstruits qui sont descendus quand le stade était modernisé.
Est-ce que tu peux dire que Lyon, ça va être le cas? Non, stop.
Non.
Ils y vont.
Mais c'est pas ça.
Eh bien, il est 19h58. On va laisser la place à nos potes de Passage en Force. Ça parle NBA. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Je voulais juste féliciter les athlètes paralympiques. Leurs 12 médailles.
Quatrième nation,
7 médailles d'or.
Et
qui est troisième nation?
La France.
Non.
Le Canada.
Bravo. La Chine et l'Ukraine. L'Ukraine qui est deuxième.
Magnifique.
Bravo à eux et vive le sport sur Prune Radio.